Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez Diversité Radio Centre-Ville de 13h à 15h. Donc aujourd'hui, Ferah Saïd à l'animation en remplacement de la chef d'antenne Arlette Josué. Donc on va essayer de la bien remplacer et j'espère qu'on sera là à la hauteur de vos attentes. Donc on va écouter une petite pause musicale puis on revient.
Et le seul qui reste au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir.
To new friends.
We barely know them.
Ta-da!
Just to remind you, I'm a vegetarian.
Louise, doctor's orders.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste. Au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme un miroir l'amour qu'il reflète. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Donc, Donc, mesdames et messieurs, vous écoutez Diversité sur Radio Centre-Ville, donc de 13h, c'est chaque samedi, de 13h à 15h. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2024, nous sommes à la veille du 1er septembre, donc le long week-end du travail. Donc, j'espère que vous passez un très beau week-end. Il fait un temps nuageux ici à Montréal, mais il y a quand même un petit peu de pluie. Donc, on va essayer de vous accompagner aujourd'hui en remplacement de la chef d'antenne Arlette Josué qui est absente. Donc, moi, c'est Ferrasaï. Vous avez l'habitude de m'écouter, de me suivre à travers différentes émissions sur cette station, la station de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Donc, pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Centre-Ville, c'est Radio Centre-Ville tout attaché. Donc, il n'y a pas d'espace. Donc, vous pourrez nous rejoindre sur Facebook et laisser tout commentaire ou appréciation. Donc, rappelons-le, ce sera probablement la dernière émission ou peut-être l'avant-dernière concernant cette émission diversité. Après, on va se déplacer à la place Versailles où il y a un beau studio qui nous attend là-bas avec moins de difficultés techniques. Donc, on a hâte quand même d'y être parce qu'on éprouve certains, comme je l'ai dit, difficultés à pouvoir transmettre aux ondes. Donc, au menu aujourd'hui, nous avons différents sujets d'actualité à traiter. On a Haïti, bien évidemment, avec tout ce qui se passe là-bas. Je trouve dommage qu'on n'a pas pu trouver une issue favorable pour toutes les parties qui sont actuellement les parties belligérantes. Donc, bien évidemment, nous allons dans quelques instants écouter les nouvelles de Kétoni Saint-Ville. Par la suite, à 14h, dans la deuxième heure de cette émission, nous allons parler, bien évidemment, d'Haïti avec le professeur ou bien le chargé de projet de AMD, les amis d'Haïti ou les amis de la diplomatie mondiale ou on les appelle les amis du monde diplomatique pour être exact. Donc, M. Stéphane Lajoie, il sera en direct avec nous à partir de 14h par téléphone. Donc, on va y aller directement écouter les nouvelles d'Haïti présentées par Kétoni Saint-Ville.
Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM.
Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans la chronique Les Nouvelles d'Haïti et de la communauté haïtienne à l'étranger pour ce samedi 31 août 2024. Cette chronique est réalisée et présentée par Kétoni Saint-Ville en collaboration avec Yves-Patrice Mérisier depuis Port-au-Prince. Dominique Dupuis obtient un accord pour la formation de 400 policiers dans les centres de formation brésiliens. La chancelière Dominique Dupuis, qui est en mission au Brésil dans le cadre de la conférence sur la diaspora africaine dans les Amériques, a rencontré le ministre de la Justice brésilien, Ricardo Lewandowski, en collaboration avec son collègue de la Défense, José Múcio. Des démarches d'urgence ont été entreprises pour renforcer la sécurité en Haïti, annonçant que plus de 400 policiers haïtiens pourront bénéficier de formations dans plusieurs centres au Brésil. Le Canada et les États-Unis font don des matériels de communication à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti. Les gouvernements américains et canadiens ont remis des appareils de radiocommunication interopérables à la police nationale d'Haïti. La cérémonie s'est déroulée en présence de Ramon O'Mill, directeur général AI de la police nationale, de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis B., et de l'ambassadeur du Canada en Haïti, André François Zéro. Taïwan remet un lot de 400 kits de protection individuelle à la police nationale d'Haïti. Le gouvernement de Taïwan a remis un lot de 400 kits de protection individuelle à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti afin de renforcer les capacités d'intervention des forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs armés. Dans son intervention, Wen Jiankou a expliqué que chaque kit comprend un casque parabale, un gilet parabale répondant aux standards balistiques internationaux, des poches pour divers chargeurs et radios, des cagoules, des gants résistants aux coupures, des lunettes de protection et des genouillères tactiques. Le premier ministre Gary Coney a exprimé sa reconnaissance au gouvernement et au peuple taïwanais pour ce geste fraternel et solidaire à l'égard d'Haïti. Cette donation ne constitue pas seulement un appareil, un apport matériel, mais elle est aussi le reflet d'une amitié sincère, durable entre Haïti et Taïwan, deux nations qui partagent une histoire de lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie, a indiqué le chef du gouvernement. Le gouvernement américain relance le programme humanitaire Parole. Le programme humanitaire Parole, qui avait été suspendu en raison des fraudes de scellés dans des applications, a été relancé par les autorités américaines à ton appui. Depuis le lancement du programme humanitaire Parole, plus de 500 000 citoyens haïtiens, vénézuéliens, cubains et nicaraguayens sont installés dans leur nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Les autorités dominicaines rapatrient 400 Haïtiens en situation irrégulière. Dès samedi 24 août dernier, les autorités dominicaines ont rapatrié en Haïti, au niveau de la frontière de Bel-Ader, environ 400 Haïtiens en situation migratoire irrégulière. Parmi les personnes déportées figure un évadé des prisons répondant au nom de Marion Saint-Germain, recherché par la police nationale d'Haïti. Nous retrouvons Yves Patrice Mélisier depuis Port-au-Prince pour les points forts de l'actualité.
PNH, FADH, mission kenyane opère au Bel Air et à Solino. En effet, la police nationale d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti et les forces kenyanes présentes dans le pays, mène depuis mardi une vaste opération dans les quartiers de Bel Air et de Solino. Depuis plus de deux ans, des bandes armées criminelles opèrent régulièrement dans ce secteur de la capitale en vue de prendre tout le contrôle de la route de Nazon, voie stratégique qui mène sur Toboudon, Boisverna et Lalu jusqu'à étendre leur territoire à Turjo. Mardi, dans la soirée, le premier ministre haïtien Gary Coney, en sa qualité de chef du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, a assisté à une réunion à la salle d'urgence de la PNH avec le haut commandement de la PNH, des FADH et le chef de la mission du Kenya afin de faire une évaluation de l'état de la situation sur le terrain. Selon la police nationale d'Haïti, jusqu'à mercredi matin, trois policiers auraient été blessés légèrement lors de cette opération. Des riverains de Solino confirment que des morts auraient été recensés parmi les bandits. Le premier ministre haïtien Gary Coney a visité mercredi 28 août 2024 les policiers du SWAT qui ont été blessés la veille lors d'une opération d'envergure de la PNH appuyée par les FADH et la force kenyane contre les gangs criminels au Bel Air et qui veulent étendre leur territoire. Le premier ministre s'est réjoui du fait que les policiers sont bien pris en charge. Je salue l'héroïsme et la bravoure de ces jeunes policiers engagés, a indiqué le chef du gouvernement. Gary Coney annonce qu'il entend rencontrer sous peu la ministre des Finances afin de discuter sur les primes de risque qui sont dues aux policiers. Le chef du gouvernement se montre très soucieux de l'assurance qui revient aux policiers ainsi que l'accompagnement qui leur est réservé ainsi qu'à leur famille lorsqu'ils sont en grande difficulté. Le chef du gouvernement a fait savoir que les opérations contre les gangs vont se poursuivre et il en a profité pour appeler la population à la solidarité et à la coopération. La police nationale d'Haïti à nouveau en deuil. La policière Michelle Nathaniel Medine abattue alors qu'une bonne partie du territoire est gangrénée par les gangs armés. La police nationale d'Haïti continue de recenser des victimes en son sein. En effet, le mercredi 28 août 2024, la policière Michelle Nathaniel Medine a été criblée de balles. Le drame s'est produit à la rue Cassagnol, à Delma 75, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Selon les premières informations, le véhicule que pilotait la victime a été atteint de pas moins de 17 projectiles. Michel Nathaniel Medine était issu de la 28e promotion. Les mobiles de cet assassinat demeurent inconnus. Nouvelle manche, Gonaïves va contre l'insécurité. Une fois de plus, des membres de la population des Gonaïves ont gagné les rues le mercredi 28 août 2024 en vue de dire non à l'insécurité qui ne cesse de semer la mort dans le département de l'Antibonite avec la présence de bandes criminelles qui sèment la terreur sur la route nationale numéro 1. Les manifestants ont appelé le directeur départemental de la police, Paul Ménor, à assumer ses responsabilités face à la terreur imposée par le gang criminels, cocorates sans race. Les policiers ont la volonté, mais ils n'ont ni d'ordre ni de matériel adéquat. On fait savoir les manifestants qui ont exprimé leur répit et leur colère face au laxisme des autorités en place. Au moins 6 personnes, en effet, ont été tuées et plusieurs maisons et jardins incendiés au cours du week-end écoulé dans la commune de Gaumone par des membres du gang Cocorade sans race. Il s'agirait d'actes de représailles perpétrés par le gang pour avoir été accusé à tort du kidnapping d'un enfant de 5 ans. Le Conseil de l'Ordre des avocats réclame justice pour Maître Dorval. Le jeudi 28 août 2024 marquait le 4e anniversaire de l'assassinat de Maître Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. 4 ans après, le Conseil de l'ordre continue à réclamer justice. Les conseillers présidents Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin se font auditionner par l'unité de lutte contre la corruption. Les conseillers présidents Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin étaient présents et distinctement à l'unité de lutte contre la corruption le mardi 27 août 2024 en vue de répondre aux questions des enquêteurs suite aux accusations portées à leur encontre selon lesquelles ils auraient réclamé la somme de 100 millions de gourdes à l'ancien directeur général de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, afin qu'il puisse garder son poste. Ses conseillers présidents ont volontairement pris la décision de se rendre à l'ULCC, qui a été touché officiellement de l'affaire, afin de se faire auditionner. L'audition respective des 3 conseillers présidents n'aura duré que quelques heures. La présence des conseillers présidents à l'ULCC dans le cadre de cette affaire, qui tend à ternir l'image du conseil présidentiel de transition, coïncide bizarrement après que des éminentes personnalités de la CARICOM aient demandé de rencontrer les différents secteurs qui ont soutenu les conseillers présidents incriminés. Haïti demande les dossiers des personnes sanctionnées par le gouvernement américain. Le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, a annoncé avoir écrit au nom du gouvernement aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de la République dominicaine pour leur demander de transférer à Haïti la liste des personnes sanctionnées ainsi que les charges et les indices sur lesquels ces sanctions sont basées. Le ministre Hercule a déclaré: cela fait un bon moment que certains pays imposent des sanctions. Nous pensons que cette question doit être abordée par le gouvernement de manière à examiner quel est le régime de ces sanctions et leur portée afin que l'on puisse prendre les mesures nécessaires sur le plan national, a indiqué le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule. Et sélectionne le représentant des droits humains désigné au Conseil électoral provisoire. Le secteur des droits humains sera représenté en principe au Conseil électoral provisoire par Maître Gédéon Jean, qui a été plébiscité avec 81 voix, tandis que ses adversaires Foudjan et Jassillon Barthélemy ont obtenu respectivement 2 et 3 voix lors des élections qui ont eu lieu le lundi 26 août 2024. Il convient de souligner que la PHDH et la FGKL n'ont pas participé au scrutin. Le parti aidé soutient le conseiller Smith Augustin. Le parti aidé dénonce des manœuvres déloyales de certains secteurs cherchant à contraindre le conseiller présidentiel Smith Augustin à quitter ses fonctions. Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier, Mathieu Kersiville, secrétaire départemental du Nord-Est pour aider, a lancé un appel à la vigilance pour contrer ce qu'il qualifie de tentative de coup d'État. Il a également exhorté la PNH à renforcer la sécurité de Smith Augustin, le secrétaire départemental, affirmant sa solidarité avec le représentant du parti au sein du CPT, a précisé que Smith Augustin a volontairement décidé de se rendre à l'unité de lutte contre la corruption pour répondre aux questions des enquêteurs, car il n'a rien à cacher. Notre président n'est pas corrompu, a-t-il conclu. Au moins un viol toutes les heures dans les camps de personnes déplacées. Le risque de violence sexuelle pour les personnes et les filles qui vivent dans les sites de déplacés dans la capitale de Port-au-Prince augmente rapidement en partie en raison de leurs conditions de vie déplorables, s'inquiète le Fonds des Nations Unies pour la population qui a visité les camps où vivent beaucoup de personnes et ont dû fuir leur domicile à Port-au-Prince. Dans 14 de ces camps passés en revue, plus de la moitié des toilettes et beaucoup de douches ne sont pas séparées entre hommes et femmes. Beaucoup ne ferment pas à clé et beaucoup de sites n'ont pas d'éclairage la nuit. De nombreuses femmes et filles risquent d'être agressées sexuellement à chaque fois qu'elles vont aux toilettes ou prennent une douche, dénonce le Fonds des Nations Unies pour la population. Au moins 3949 cas de violence ont été répertoriés entre janvier et mai 2024.
Merci de nous avoir suivis. Pour plus de détails sur la nouvelle d'Haïti et de la communauté haïtienne à l'étranger, visitez le miroirinfo.ca. Kitoni Saint-Ville et toute l'équipe vous donnent rendez-vous à samedi prochain pour un autre numéro.
Eh oui, nous venons d'écouter les nouvelles d'Haïti avec notre camarade et collègue Kitoni Saint-Ville. Donc un grand remerciement. De grands remerciements sont adressés à lui et son proche collaborateur. Donc, mesdames et messieurs, on continue cette émission Diversité sur Radio Centre-Ville de 13h à 15h. Je rappelle que je remplace aujourd'hui la chef d'antenne Arlette Josué, absente. Donc, on va essayer un petit peu de la remplacer et d'être à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas surtout à suivre sur la page Facebook de Radio Centre-Ville. Et on va parler de beaucoup de choses. On va parler de sport, d'Haïti, mais aussi on va parler de la réforme de François Legault, du premier ministre du Québec, qui veut réduire drastiquement l'immigration au Québec, surtout dans la ville de Montréal, à Montréal. Donc il a annoncé de nouvelles mesures lundi dernier. C'est des mesures établies sur les 6 prochains mois. Éventuellement, elles seront prolongées par la suite. On devait avoir aujourd'hui le chef de l'opposition officielle en matière d'immigration, André Morin, mais à la dernière minute, malheureusement, on n'a pas pu le joindre. Donc, ce sera probablement pour la semaine prochaine. Donc, dans les grandes annonces, dans les grandes mesures du Premier ministre, on annonce que le PTOT désormais sera drastiquement, son accessibilité sera drastiquement réduite. Donc, surtout pour les bas salaires en dessous de 27 $. L'exception sera faite bien sûr pour les travailleurs de la santé, de la construction, parce que c'est des services essentiels pour les citoyens. Donc voilà, on aura aussi, comme je l'ai dit à la deuxième heure, M. Stéphane Lajoie pour parler d'Haïti, d'une conférence qui se déroulera à Montréal le 5 septembre prochain sous la thématique Haïti, l'imposture de l'aide internationale. Donc, on va vous proposer d'aller en pause musicale, puis on revient pour continuer avec les sports diversifiés, dont Fonfon Churan.
Jerusalema, Ikayalami. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dauyami alikolana Buso wami aukulana Ilondoloze
mi a un colana kilo no lo sé su hambena da uya mi a un colana buso a mi a un colana kilo no lo sé.
Mesdames et messieurs, on revient pour continuer cette émission diversité. Il est 13h27 sur les ondes de Radio Centre-Ville. Il fait un temps nuageux ici à Montréal, faible pluie. Donc on essaye de profiter un petit peu de ce temps pendant que la pluie s'est arrêtée ces derniers jours. On a connu des week-ends très très pluvieux avec des pluies torrentielles et des inondations. D'ailleurs, toutes mes pensées aux gens qui ont été touchés par ces inondations. J'espère que ça va aller mieux pour eux. Donc j'ai essayé pendant cette pause musicale, j'ai essayé de joindre notre ami Fanfan Turin pour le sport, pour les nouvelles sportives. Donc malheureusement on va continuer toujours avec le sport. Maintenant c'est au tour de la chronique de François Robert. Il a fait une entrevue avec Selma Khaled, la fameuse fameuse podcatrice. Elle est à la tête d'un podcast qui s'appelle Joueuse Sport. C'est du soccer. Elle traite le soccer féminin. Donc, presque chaque samedi, on en a des entrevues de Selma Khaled. Un grand remerciement, un grand merci à elle. On va passer directement à l'entrevue de François Roberge. Je le rappelle, il est absent aujourd'hui. Il est pas là avec nous au studio. Donc, on lui passe nos chaleureuses salutations.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre analyse footballistique. En fait, on poursuit et on conclut notre analyse des Jeux Olympiques. La dernière fois, nous n'avions pas encore les résultats pour le match final et le match de la troisième position, la médaille de bronze. Alors maintenant, c'est confirmé. Alors, classement final, donc, première... position États-Unis, deuxième Brésil, troisième Allemagne et quatrième Espagnol, ce qui a un impact nécessairement sur le classement de la FIFA, ce qui veut donc dire désormais que les Américaines redeviennent premières, suivies des Anglaises, suivies des Espagnoles et en quatrième position l'Allemagne. Pour analyser tout ça, notre spécialiste, celle qui crée joueuse dans YouTube, joueuse avec un S que je vous invite à écouter religieusement comme je le fais moi-même, elle s'appelle Selma Khaled, en duplex avec Paris. Selma, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Rebonjour François et remercie pour votre accueil. Je commence à être habituée à cette émission et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Par contre, tu n'étais peut-être pas habitué à voir des succès américains, mais voilà que les Américaines reprennent la première place à la fois aux Jeux Olympiques et à la fois à la tête de la FIFA, et la France leur porte chance puisqu'en 2019, les Américaines avaient gagné la Coupe du Monde en France. Désormais, donc, l'équipe des Maes en première position partout, disons-le. Est-ce justice rendue pour les Américaines?
C'est totalement juste rendu pour cette équipe américaine qui finalement retrouve ses ambitions réalisées. C'est aussi un beau début pour Emma Hayes qui débute dans cette équipe, qui vient insuffler un vent nouveau et qui vient concrétiser ce vent nouveau en ramenant une médaille d'or à la maison, chez elle maintenant, aux États-Unis. Donc voilà, c'est un bon début de renouvellement d'air pour Emma Hayes et cette sélection américaine.
Du côté anglais, voilà les Anglaises qui finissent deuxième dans le classement FIFA, qui oscillent beaucoup dans les cinq premières positions, mais qui semblent avoir beaucoup de difficultés à gagner. On se rappelle, elles avaient tout de même gagné l'Euro 2022. Qu'est-ce qui se passe avec les Anglaises? On dirait qu'elles sont toujours le plan B, finalement.
Non, je pense que cette équipe anglaise, elle a beaucoup de qualités, que ce soit au sein de cette sélection, mais même sur les joueuses qui ne font pas partie de cette sélection. Un championnat qui est très compétitif, avec de belles équipes et de belles ambitions. Donc je pense que si cette équipe effectivement avait réussi à se qualifier au JO, elle aurait pu effectivement avoir un beau parcours, une belle trajectoire, ce qui n'a pas été le cas. Donc je pense que ça reste une équipe à surveiller, de très près et qui nous réservera très probablement une belle surprise pour l'Euro 2025 avec cette volonté de gagner à nouveau le titre qu'elles ont remporté chez elles il y a 2 ans.
Et autre surprise, c'est l'Espagne. Alors l'équipe de Montserrat Tomé qui finalement n'obtient pas de médaille aux Jeux Olympiques. Tout le monde les voyait tout de même avec une médaille autour du cou, ce qui les ramène en troisième position du classement FIFA alors qu'elles étaient premières. Est-ce qu'on doit paniquer du côté de Montserrat Tomé ou quand même pas tout de suite?
Je pense que la panique n'est jamais une très bonne réaction et qu'il faut toujours garder son sang-froid. Et c'est ce qui fait la qualité de personnes finalement qui sont ambitieuses et sereines dans leurs compétences. Et typiquement pour l'équipe d'Espagne, je pense que l'échec est formateur, comme dans toute profession, et que ce soit sportive ou pas. L'échec va leur permettre de peut-être remettre à plat certaines choses, se préparer aussi à ne jamais mépriser leur adversaire. Alors, elles n'ont pas totalement méprisé leur adversaire, mais elles ne s'attendaient pas finalement à cette équipe du Brésil, à cet entrain de l'équipe du Brésil qui était là et qui jouait avec les tripes. Et donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir une équipe d'Espagne encore plus revancharde et déterminée à gagner ses prochains matchs et des prochains titres.
Maintenant, l'Allemagne, qui est désormais quatrième au classement, l'Allemagne qui se situe relativement bien dans le classement de la FIFA, ne semble pas être une équipe qui fait peur à grand monde. C'est une bonne équipe. Alexandra Popp est une bonne buteuse, c'est vrai. Mais cette équipe, on dirait de la misère à faire peur à ses adversaires. Qu'est-ce qui se passe?
C'est une équipe qui faisait beaucoup peur avant, c'est un championnat également qui faisait beaucoup peur auparavant, et c'est une équipe qui fait face à une difficulté de renouveler son leadership. Alors on l'a bien vu sur la demi-finale contre les États-Unis, Pop n'était pas là, donc ça a créé une grande différence sur le terrain. Brand était présente, elle a essayé de porter cette équipe, elle était de tous les ballons, de toutes les offensives, elle était présente, mais ça n'a pas suffi. Et donc ce qui manque aujourd'hui dans cette équipe, c'est d'avoir des personnalités comme ça, des leaders au sein de cette équipe qui vont venir porter toute une équipe, à l'image par exemple d'une Oberdorf qui était blessée, rupture des ligaments croisés, qui n'a pas pu assister à cette compétition et jouer pendant cette compétition. Donc j'ai hâte de voir aussi les nouvelles figures qui vont se constituer dans cette équipe.
Bon, j'aurais aimé terminer, tourner la page du classement FIFA, mais je ne peux pas faire autrement que de parler de la foutue 10e place occupée par la France. Seulement, je suis meurtri. Qu'est-ce qui se passe?
On est 68 millions de Français à être meurtris, François, plus tous les amoureux de ce pays qui est la France, de ce beau pays qui est la France, parce qu'effectivement on dégringole dans ce classement. C'est aussi l'image finalement d'un plafond de verre que cette équipe n'arrive pas à dépasser, qui a des conséquences sur un classement. Alors Ok, ceci étant dit, le plus important, ça n'est pas le classement, mais c'est les titres qu'on remporte. Mais finalement, les titres qu'on remporte ont un impact sur ce classement, donc tout est lié. Pour moi, c'est aussi une très bonne chose, finalement, ce classement, parce qu'il vient factuellement mettre une position sur des choses à améliorer, sur une sonnette d'alarme que plusieurs personnes et plusieurs joueuses tirent depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'on attend de ce classement, c'est que les organisations qui sont en charge du foot féminin en France puissent le prendre en considération, ça c'est sûr, et puis ensuite mettre les investissements nécessaires pour venir gagner une des trois premières places, si ce n'est la première, parce que le rayonnement de l'équipe féminine française, c'est le rayonnement du sport français, c'est le rayonnement de la France, c'est du soft power aussi. Donc c'est ce qu'on attend.
Ben justement, puisqu'il est question de soft power, parlons-en du côté de l'onde Sonia Bopasta, cette grande footballeuse française qui dirige maintenant Chelsea FC à la place d'Emma Hayes et qui a dit la semaine dernière dans une entrevue qu'elle veut gagner la Ligue des champions. Faut-il le souligner, Chelsea ne l'a jamais gagné. Est-ce possible? Est-ce que Sonia Bopasta, d'après toi, dispose de l'artillerie lourde pour arriver là?
Sonia Bonpasseur est la définition même de l'artillerie lourde puisque c'est une légende du foot féminin pas que français, international. C'est une joueuse qui a marqué son sport, qui a marqué son sport par ses victoires, par son niveau de jeu, par sa qualité de jeu et par son état d'esprit, son fair play. Une joueuse qui a joué à la fois en France et aussi aux États-Unis. Une joueuse qui est très appréciée dans son pays, en France, et qui aujourd'hui s'exporte après de nombreuses années à l'OL. C'est une joueuse qui vient créer cette nouvelle ère. On entend parler de cette nouvelle ère au sein de Chelsea dans les éléments de communication depuis plusieurs semaines. C'est une nouvelle ère pour cette équipe qui vient finalement renouveler son staff, un changement de staff, un changement de manière de jouer, de manière de faire, de coacher. Et donc je pense qu'on va avoir de belles choses, ce qui va permettre aussi un renouvellement de l'équipe en partie, puisqu'il y a de nouvelles recrues. Certaines sont d'ailleurs majoritairement françaises, donc ça permet d'avoir un peu plus de français à Londres. On y était habitué côté Arsenal, un peu moins côté de Chelsea, donc ça va être intéressant de voir ça. Et puis c'est aussi la seule joueuse à avoir gagné la Ligue des Champions, tant sur le terrain en tant que joueuse que sur le banc en tant que coach. Donc je pense qu'elle a effectivement toutes les capacités pour remporter cette Ligue des Champions avec Chelsea. Et puis elle va aussi apporter cette culture de la gagne tout en s'appuyant sur les fondations qu'a construite Emma Hayes. Donc ça va être une belle équipe à suivre cette.
Ben justement, puisqu'il est question de Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais l'a gagné souvent. Et parlons justement de celui qui lui succède, Joe Montemurro. C'est cet entraîneur australien qui a coaché en Italie, qui, lui, traverse les Alpes pour diriger désormais l'OL féminin. Est-ce que la tâche est ardue pour lui succéder à Sonia Bonpasta? C'est pas une mince affaire quand même.
Alors, ce n'est pas une mince affaire de passer à côté, de passer, de succéder, je m'excuse pour ce terme, mais de succéder à une légende d'un club. Sonia Bonpasseur, c'est la légende du foot féminin français, de l'OL surtout. Ça va être une belle équipe aussi à suivre. On attend d'avoir plus d'informations sur le projet de jeu de Joe Montemurro, de savoir ce qu'il va faire en tant que supportrice de l'OL. J'attends surtout de voir ça sur le terrain, de voir comment cette équipe va être coachée par Joe Montemurro. En tout cas, c'est un coach dont moi personnellement j'ai toujours entendu de bons retours par les joueuses qu'il a pu coacher. Donc ça n'annonce que du positif pour l'OL.
Voilà. Alors, je le rappelle, donc, Selma Khaled, youtubeuse, joueuse avec un S à surveiller presque toutes les semaines dans YouTube. En terminant, la fin de semaine dernière, c'était le lancement d'une nouvelle ligue, la USL Super League aux États-Unis. 8 clubs. C'est une nouveauté qui est calquée sur le calendrier classique européen, c'est-à-dire du mois d'août jusqu'au printemps. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une nouvelle ligue aux États-Unis? Il y a quand même la NWSL. Une ligue de plus, c'est une bonne nouvelle selon toi?
C'est une bonne nouvelle parce que c'est une ligue qui arrive avec une proposition de valeur qui est totalement différente, avec des équipes qui sont aussi différentes et qui va permettre d'apporter finalement une nouvelle offre de football féminin dans un pays qui est très consommateur de football féminin. Si on peut remplir des stades avec 10 000, 22 000, 25 000 personnes, on est capable aussi d'en créer une nouvelle compétition. Et puis c'est un championnat qui est calqué sur le modèle européen, sur le calendrier européen, ce qui permet à des joueuses étrangères de venir jouer aux États-Unis sans être finalement dans des situations particulières par rapport à leur sélection nationale.
Mais est-ce le début d'une compétition des ligues, d'une guerre des ligues aux États-Unis?
mais c'est ce qui est génial, comme dans toute notion de concurrence entre deux entreprises lambda, c'est que la concurrence, ça permet d'élever les deux acteurs vers le haut, et je suis sûre qu'on va assister à ça.
Voilà, à suivre. Selma Khaled en duplex avec Paris. Merci beaucoup pour l'entretien. Et on se reparle, je présume, la semaine prochaine, puisque c'est le presque début de la saison 2024-2025. Alors, j'imagine que tu as bien hâte à ce début de saison, où qu'elle se trouve, en France comme en Europe.
On a hâte de voir de nouvelles rencontres, et je te remercie à nouveau, François, pour ton accueil.
Ben, ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Selma.
Qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours.
Diversité, une émission conçue pour vous. 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Diversité Radio Centre-Ville, une émission réunissant les représentants de différentes communautés ethnoculturelles de la radio. Diversité, chaque samedi, 13h-15h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.
Et voilà, nous sommes de retour. Il est 13h41 ici à Montréal. Vous écoutez Diversité Radio Centre-Ville de 13h à 15h. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, en remplacement d'Arlette Josué, c'est Ferhat Saïd. Donc, je vais vous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons déjà parlé des nouvelles d'Haïti et on attend toujours le retour de notre ami Fanfan Turan. En attendant, je vais vous passer un petit morceau à écouter. Donc, j'ai commencé à parler de ça tout à l'heure.
Agissent rapidement. Maintenant, le gouvernement du Québec a quand même la responsabilité de 180 000 des 600 000 immigrants temporaires. Bon, d'abord, on va s'entendre sur une chose. Sur les 180 000, il y a 120 000 étudiants étrangers. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on n'a pas les outils légaux à Québec pour être capable de limiter le nombre d'étudiants étrangers par établissement d'enseignement. Donc, je vous annonce, première annonce, que dès le début de la session, là, donc dès cet automne, on va déposer un projet de loi pour se donner le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements où il y a eu, entre autres, des abus au cours des dernières années. Restent les 60 000 travailleurs temporaires qui sont dans le programme qu'on appelle PTET. Bon, je vous disais tantôt, notre objectif, surtout protéger le français, c'est de s'assurer qu'on réduise le nombre d'immigrants à Montréal. Sur les 60 000, il y en a 12 000 à Montréal. Donc, le pouvoir du gouvernement du Québec est quand même limité, mais le gouvernement fédéral manque pas une occasion de dire, ben, il faudrait que vous donniez l'exemple. Donc, aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Donc, je vous annonce un moratoire sur les demandes pour les travailleurs temporaires et sur les renouvellements pour les travailleurs temporaires du programme PTET sur l'île de Montréal pour 6 mois. On pourra le poursuivre sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Aujourd'hui, on vous annonce qu'on commence par 6 mois.
Donc, voilà, vous avez écouté le premier ministre de la province, François Legault, annoncer sa mesure, l'une de ses premières mesures pour stopper l'immigration temporaire dans la ville de Montréal, parce que actuellement il y en a environ 600 000 au Québec et la plus grande proportion est ici à Montréal. Donc pour les 6 prochains mois, ce programme de PTET, le programme des travailleurs étrangers temporaires sera suspendu, ainsi que pour les demandes de renouvellement pour les 6 prochains mois. Donc, et il annonce à l'occasion par ricochet qu'il y aura aussi d'autres mesures qui s'en viennent, qui concernera les étudiants internationaux. Donc, on va écouter juste la réaction du chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, le chef par intérim du Parti libéral du Québec, réagir par rapport à cette annonce.
À mon collègue André Morin. On en a besoin aussi dans toutes les régions du Québec. Sous la CAQ, on a vu une augmentation incontrôlée des nouveaux arrivants, des immigrants temporaires. Les enjeux sont majeurs. L'accès à un logement, l'accès aux services de base, un service de garde, en éducation, en santé, etc. Rappelez-vous, en mai 2023, le Parti libéral du Québec avait proposé un projet de loi, 493, pour qu'on puisse intégrer dans la planification les immigrants temporaires. François Legault a refusé. Il aurait été bien avisé d'accueillir favorablement notre projet de loi en mai 2023, qui faisait en sorte que la planification, c'était plus juste les permanents, mais c'était aussi les temporaires. Ce matin, on s'inscrit dans cette logique toute libérale-là de la nécessité d'avoir une immigration contrôlée au Québec. On fait une autre proposition ce matin. Faire en sorte de mettre sur pied un bureau intégré de la planification au sein du ministère de l'Immigration. Le bureau intégré de la planification, et nous vous avons imprimé l'organigramme du ministère de l'Immigration au Québec. Il y a 108 cases de personnes qui font des choses, j'en suis persuadé, importantes. Mais sous la ministre, il devrait y avoir, et c'est en haut à votre gauche, une case parmi tant d'autres qui est planification. Nous, on veut que cette case-là soit directement sous la ministre, sous sa responsabilité, un bureau intégré de planification de l'immigration. Et c'est par cette façon de faire-là, y incluant le projet de loi 493 d'inclure les temporaires, qu'on pourra prétendre reprendre contrôle d'une nécessaire immigration, mais on veut que ça marche, on veut que ça fonctionne. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue André Morin.
Alors, merci Marc. Bonjour tout le monde. En effet, il faut reprendre le contrôle en immigration et pour reprendre ce contrôle, il faut une meilleure planification sur le terrain, meilleure planification avec les acteurs et dans les régions. Et quand on parle de planification, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est de déterminer quels sont les besoins du Québec, de la société québécoise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça de la planification. Non pas réagir à une nouvelle ou un chiffre, mais planifier et voir dont le Québec a besoin pour les années à venir. Et il faut absolument, dans cette planification-là, inclure les travailleurs temporaires. Pourquoi? Bien parce que c'est 43 % des nouveaux arrivants. Donc, c'est essentiel. Et le gouvernement nous demande de leur faire des propositions. Bien, on en a fait. Au niveau de la planification des temporaires, il y a le projet de loi 493 qui a été déposé en mai 2023 et qui demande au gouvernement de tenir compte des travailleurs temporaires dans sa planification pluriannuelle. Moi, j'ai une demande aussi au gouvernement. Le gouvernement, en novembre, là, va déposer son plan en immigration pour 2025. Il n'a jamais voulu tenir compte des travailleurs temporaires. Bien là, il est temps de le faire. Et c'est une demande concrète. Le gouvernement veut agir, bien il peut le faire et il doit le faire maintenant. Donc, je vous dis également que pour mieux planifier, et Marc le soulignait, on demande la création d'un bureau de la planification au sein du ministère des Affaires de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration qui relèverait directement de la sous-ministre et de la ministre. Pourquoi ce bureau-là et comment devrait-il être composé? Bien, il faudrait qu'il y ait différentes personnes spécialistes de différents ministères, que ce soit les affaires municipales, l'économie, l'éducation, des spécialistes en santé et services sociaux, des spécialistes également en sociologie puis en démographie, parce que c'est ça la planification. De quoi le Québec a besoin dans 2, 3, 4 ans? Comment il faut les intégrer? Est-ce qu'on a besoin de gens qui vont être capables de travailler le lendemain? Est-ce qu'on va devoir les former? Bien ça, une planification globale, c'est ce qu'il faut. Puis ce bureau-là devraient être en mesure de le faire et conseiller le gouvernement. Puis, pourquoi tous ces...
Donc, nous avons écouté la réaction du Parti libéral du Québec à travers son chef par intérim, Marc Tanguay, ainsi que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, d'intégration et de francisation. Donc, on parle là de la création, le Parti libéral du Québec propose la création d'un bureau de planification intégré au sein du ministère de l'immigration afin d'assurer une immigration contrôlée au Québec. Bien sûr, ce sera à ce bureau-là qui sera sous la relève de la sous-ministre et du ministre de l'immigration de déterminer le taux dont on en a besoin, bien évidemment en collaboration avec les partenaires économiques, sociaux, et tout ce qui est en relation avec, bien sûr, les statistiques démographiques. Donc, on a vu la réaction du Parti libéral du Québec. On va aussi écouter dans quelques minutes... la réaction de Québec solidaire. Québec solidaire parle déjà du fait que le premier ministre se réjouissait il y a quelques mois du fait que les immigrants temporaires, on en a besoin, mais il revient en arrière 6 mois plus tard. Donc, par contre, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, parle d'une mesure, d'une demi-mesure ou de mesurette, car en réalité, c'est une mesure qui pourrait ralentir de 3 000 seulement dans les 6 prochains mois, qui pourrait réduire de 3 000 seulement le nombre d'immigrants temporaires à Montréal pour cette période déterminée. Donc, il va falloir beaucoup plus que ça. Bien évidemment, la plus grande proportion des immigrants temporaires sont contrôlés par le gouvernement fédéral, donc par Justin Trudeau. Donc toutes les parties semblent être d'accord sur ce point que Trudeau doit apporter sa pierre aussi à l'édifice pour pouvoir stopper ces flux d'immigrants dans la région de Montréal. Donc j'attends toujours les nouvelles de Franck Fanturan pour continuer les nouvelles sportives. Donc on va vous laisser sur une pause musicale de la chanson préférée d'Arlette Josué. Donc j'en suis sûr, elle est en train de nous écouter actuellement.
Jérusalem, Ikayalami, Ilondolose. Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambe nami, Zungangishilana, Dawu yami, Aikolana, Buso wami, Aukolana, Ilondolose. Aikolana, buso wami, aukolana, ilondolose, zuhambe nami, ilondolose, 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 zungangishi. Aikolana, buso wami, aukolana, ilondolose, zuhambe nami, dawu yami, aikolana, buso wami, aukolana, ilondolose. Jerusalem, Ikayalami,
Mesdames et messieurs, vous écoutez Diversité Radio Centre-Ville. Donc, on vous accompagnera jusqu'à 15h aujourd'hui en remplacement d'Arlette Josué. Donc, on a fait le tour un petit peu par rapport aux mesures migratoires qui ont été annoncées par le premier ministre de la province, François Legault. Donc, nous avons réagi et vu les différentes réactions des partis de l'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, dans quelques minutes, nous allons à la pause, puis on va reprendre... on attend toujours des nouvelles de Fanfan Turin. C'est pour ça que je suis en train de composer un petit peu, mais sinon on va aller directement en joindre Monsieur Stéphane Lajoie, chargé de projet chez AMD. On va parler bien sûr de la conférence qui se déroulera le 5 septembre prochain, hein, pour trouver sous la thématique Haïti, l'impôt sur de l'aide internationale. Donc je vais vous laisser sur la pause, une courte page de pause, puis on revient continuer.
Oyami, aïkolana, bousso ami, aïkolana. Ilonolose, souhamilami.
La 7e édition du Soir de l'été aura lieu cette année, le 31 août 2024, au Buffet Renaissance, 7550 Henri Bourassa Est. Des artistes comme Joseph Allen Prince, Jean-Robert Bellamin, Moshe Guerrier et Will Julia monteront tour à tour sur le podium pour vous présenter leurs prestations. Au programme, il y aura un discours hommage aux héros méconnus et inconnus, un débat sur la culture haïtienne et plus encore. L'artiste cigéen vous fera rire jusqu'aux oreilles. Mireille Filosca et son pianiste vous perceront les oreilles avec leur plus belle symphonie. Admission $100. Enfants $50. Enfants de 0 à 4 ans gratuit. Information 450-518-2375. Commandité par Complexe Magnus Poirier, 10300 boulevard P9, 514-727-2847. Marché Casse-Coute Fleur du Soleil, 5047 Charleroi, Montréal Nord, 514-327-8987. Adeline Timothée, naturopathe, massothérapeute, 514-431-8330. Centre de santé d'Ormeus, massothérapie, naturopathie, ostéopathie, 5872 boulevard Léger, 514-329-0647. Edith Fashion, couture sous mesure et altération générale, 4850 rue Charleroi, 438-990-99. Leçon de l'été à ne pas manquer sous aucun prétexte.
À vos marques, prêts? Grindant. Le Festival international du rire en couleur vous invite à sa 11e édition le samedi 31 août à 19h au théâtre André Mathieu à Laval. Le FIRC retourne avec une programmation surprenante et est fier d'annoncer l'une de ses premières têtes d'affiche, Kako. Le grand retour de Michel Bompara, accompagné de Jérémy Chor, l'étoile découverte de l'année dernière, Étienne Vendette, Magali Landu, David Mézi, Jacob Ospian et tant d'autres. Les billets sont en vente...
C'est pas gratuit?
Les billets sont en vente sur le site du théâtre andremathieu.ca et dans tous nos points de vente. $60 à l'avance et $80 à la porte. Les enfants de 5 à 12 ans, $25.
Pour plus d'informations, tapez le www.festivaldurireencouleur.com ou le 438-994-7615.
Rappelez-vous, une journée sans rire est une journée perdue. Je suis Cynthia Jean-Louis et il me fera plaisir d'être votre hôte pour la 11e édition du FIRC. Grindant!
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio.